Nous sommes les élèves de la classe de CM2 de Volonne. Nous allons vous présenter des projets et des rencontres que nous avons faits au cours de cette année scolaire.
Raphaël, Léo, Mila et Célia vont vous parler des activités que nous faisons avec Marius, prof de fac et chercheur au CNRS.
Marius était l'ancien prof de notre maîtresse. Il vient de temps en temps dans la classe de CM1, CM2 pour nous apprendre la science en plus approfondie. Au début de l'année, il nous a fait faire des expériences sur les couleurs.
Nous avions réalisé un arc-en-ciel grâce à un DVD et une lampe torche pour nous montrer que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Dans un autre atelier, nous avions fait deux groupes de 12. Il y avait un groupe qui avait des verres d'eau salée et l'autre groupe avec des verres d'eau douce. Puis nous avions scotché des filtres à café sur des crayons et nous avions mis un trait de couleur sur le papier. Nous avions trempé ensuite le crayon dans le verre d'eau. Nous avions remarqué que les couleurs du trait s'étalaient sur le filtre avec l'eau salée, mais pas sur le filtre avec l'eau douce. Donc, l'eau salée facilite la diffusion des couleurs.
Une autre fois, Marius nous a fait faire un élevage de blobs.
Le blob est un animal unicellulaire qui mange des flocons d'avoine. Nous l'avons mis dans une boîte de pétri, il était endormi. Il était à une extrémité. Sur l'autre extrémité, nous avons mis des flocons d'avoine. Quand il s'est réveillé, au bout d'une semaine, il s'est développé et a atteint les flocons d'avoine. Le blob ne meurt pas et on peut le séparer en plusieurs blobs.
En ce moment, nous fabriquons des cristaux.
Nous avons mis de l'eau chaude dans une bouteille, puis nous avons mélangé avec du sulfate de cuivre dans un pot. Le liquide a une belle couleur bleue. Nous avons mis un papier absorbant dessus pour que ça s'évapore plus vite. On a attendu quelques jours, puis les cristaux se sont formés petit à petit. Il y en a des gros et des petits. Cette expérience nous apprend que le sulfate de cuivre peut produire des cristaux.
Nous sommes allés au CNRS à Marseille où nous avons rencontré Marius et des étudiantes. Voici l'interview que nous avons réalisée.
Pourquoi tu choisis ce métier ?
Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier ? C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Quand j'étais un petit peu plus grand que vous, je voulais être Charles Darwin. Vous ne savez pas qui c'est Charles Darwin ? C'est celui qui a proposé une théorie de l'évolution. Et j'ai été fasciné par la vie de ce scientifique, qui était un scientifique du 19e siècle, qui a fait des voyages et qui a fait des découvertes extraordinaires. Alors, j'ai jamais égalé Charles Darwin, mais par contre, j'ai beaucoup voyagé et j'ai pu pratiquer mon métier, essayer de comprendre comment le monde va et comment il évolue et comment on peut expliquer un certain nombre de choses.
As-tu toujours travaillé à Marseille ?
J'ai fait mes études à Marseille, une partie de mes études à Marseille. Mais après, j'ai eu un poste au CNRS à Paris, à l'École normale supérieure, où je suis resté 6 ans. Après, quand on est un chercheur au CNRS ou qu'on est un ancien chercheur, il faut qu'on complète notre formation par ce qu'on appelle des stages postdoctoraux. C'est-à-dire on va faire des stages à l'étranger dans un domaine qui nous intéresse. Alors moi, je suis allé en Suisse, je suis allé aux États-Unis, j'ai beaucoup passé de temps en Inde, je suis allé au Brésil. Donc voilà, j'ai parcouru un peu le monde. Donc j'ai un peu, entre guillemets, réalisé mon rêve, le rêve de Darwin de voyager. Comment devient-on chimiste ? Alors je reformulerai la question, comment devient-on scientifique ? Il y a plusieurs réponses à cette question, si je vais prendre la mienne. Je me suis toujours intéressé à la vie, aux animaux, aux processus qui font que... Un oiseau peut voler, un poisson peut nager. Donc petit à petit, je me suis toujours posé ce genre de questions. Et mes questions étaient très, très grossières au début, comment un oiseau peut voler. Mais après, avec l'âge, mes questions se sont affinées et je me suis intéressé à des choses beaucoup plus précises. Par exemple, comment un être humain ou un animal peut respirer de l'oxygène avec ses poumons. Et après, comment ça se passe quand il relargue du gaz carbonique. Donc, et tout ça, c'est de la chimie. Et en fait, je ne savais pas au début que c'était de la chimie, parce que moi, je voulais être biologiste. Mais en faisant des études de biologie, je me suis rendu compte que la chimie était centrale pour bien comprendre ce qu'on appelle le vivant, comprendre comment un être vivant fonctionne. Donc c'est par passion. Bien que j'aime pas ce mot de passion, mais c'est par amour des sciences, on va dire. Voilà.
Comment fait-on pour travailler au CNRS ?
Alors pour entrer au CNRS, il faut déjà préparer ce qu'on appelle une thèse de doctorat, qui prend 3 années après un master. Le master, ça se prépare à l'université, donc après on fait 3 années supplémentaires pour être docteur. Mais après, c'est pas terminé. Il faut faire ce dont j'ai parlé, des stages postdoctoraux. Il faut aller à l'étranger pour parfaire notre formation. Et à l'issue de ça, on candidate sur un concours. Donc chaque année, il y a à peu près 400 postes de chercheurs CNRS qui sont ouverts sur concours. Et alors là, ça couvre les sciences humaines, c'est-à-dire l'histoire, l'économie, le droit, et les sciences qu'on appelle dures, la physique, la chimie, les mathématiques. Donc moi, j'ai passé un concours, je l'ai réussi, j'ai eu la chance de le réussir. Je dis la chance, mais il y a toujours un facteur chance qui est important pour ce concours.
Quel est ton rôle au CNRS ?
Mon rôle au CNRS, c'est de développer un sujet de recherche. Je fais des recherches, je me suis posé une question. Tous les chercheurs se posent une question, et une question scientifique. Et toute ma vie, j'ai essayé de répondre à des questions, en imaginant des protocoles scientifiques pour répondre à la question que je m'étais initialement posée.
Aimerais-tu avoir ton propre labo ?
Mais j'ai déjà mon propre labo. Donc oui, quand j'étais plus jeune, je voulais avoir mon propre labo. Et j'ai eu la chance de pouvoir créer un laboratoire que vous allez visiter tout à l'heure. Alors maintenant, je suis émérite, ça veut dire que je suis à la retraite. C'est plus moi le directeur du laboratoire, mais c'est quelqu'un qui m'a succédé.
Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler au CNRS ?
Alors, je vois plus d'avantages que d'inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a une totale liberté de mener les recherches qu'on a envie de mener. Et c'est ce qui s'est toujours passé durant ma carrière. J'ai toujours fait, grosso modo, ce que j'ai voulu. J'ai mené les recherches que j'ai voulu sur des sujets que j'ai voulu. Donc ça, c'est un énorme avantage. C'est la liberté. La liberté de chercher. Et pourquoi on cherche ? Pour augmenter la connaissance en général et la divulguer au maximum de personnes dans le monde. Donc c'est un métier noble. Améliorer les connaissances et la divulguer. Les inconvénients ? Alors, les inconvénients, à l'heure actuelle, il y a la part d'administration qui a pris beaucoup d'importance. Ça, c'est un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est que les salaires ne sont pas très, très importants, si je peux dire, mais je ne m'en suis jamais plaint.
Comment mettre en œuvre une recherche ?
Alors, comment mettre en œuvre une recherche ? Déjà, il faut, premièrement, quand on fait des sciences, la première des choses, c'est l'observation. On observe. Et on décrit un phénomène. Par exemple, on voit un oiseau voler, on décrit l'oiseau voler. Et une fois qu'on a observé et décrit, on va se poser des questions. On va se dire, par exemple, pourquoi l'oiseau vole ? Qu'est-ce qui fait que l'oiseau vole ? Et donc, on va, pour répondre à cette question, on va imaginer ce qu'on appelle un protocole de recherche. On va imaginer des expériences à mener pour vérifier notre hypothèse. Voilà.
Est-ce que vous travaillez en équipe ?
Alors, la recherche, c'est avant tout un travail d'équipe. Alors, il y a la recherche qu'on menait du temps de Darwin, par exemple, ou de Pasteur au XIXe siècle, c'était une recherche isolée. Il y avait, en général, c'était un professeur qui menait des recherches personnelles. Maintenant, la recherche isolée n'existe pas. Vous allez voir dans le laboratoire que nous travaillons tous en collaboration, en étroite collaboration, et que, autrement, on peut pas, sans ça, on ne peut pas mener des recherches moderne, je dirais, et qui touche, bien entendu, les problèmes sociétaux de l'humanité.
Sur quel sujet travailles-tu ?
Sur quel sujet je travaille ? Je m'intéresse à des enzymes. Des enzymes, vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est. Ce sont des protéines, peut-être pas non plus, mais ce sont des constituants de tous les êtres vivants qui permettent de réaliser des réactions. Et moi, je m'intéresse à des enzymes qui possèdent un cuivre pour pouvoir réaliser ces transformations. Et notamment des enzymes qui permettent de synthétiser des neurotransmetteurs du système nerveux central de tous les mammifères. Noradrénaline, dopamine, etc., etc.
Avez-vous un délai imposé pour présenter vos résultats ?
Absolument pas. J'ai parlé tout à l'heure de la liberté d'un chercheur. Et un chercheur est entièrement libre de réaliser ses expériences et de les publier, parce qu'il faut qu'on les diffuse au monde entier et de les publier dans des journaux à son rythme. Alors ce que je vous dis, c'est pas absolument vrai, puisqu'on est quand même, maintenant, on est de plus en plus évalué. Il y a des instances qui nous évaluent, qui décident si on est un bon chercheur ou un mauvais chercheur. Et donc, dans ce cadre-là, on peut être amené à... On peut nous demander à publier rapidement nos résultats. Mais autrement, on est libre.
Comment on présente et on retient les résultats d'une recherche ?
Alors, comment on les présente ? D'abord, on réalise des recherches, on a des résultats. Et ce que je disais précédemment, il faut les diffuser à l'humanité tout entière, hein, que nos résultats servent à un maximum de personnes. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs moyens de diffusion. Notamment, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rédigent des thèses de doctorat. Donc, je vous en montrerai tout à l'heure. Vous verrez, ce sont comme des livres. Ce sont des livres. On écrit des publications dans des journaux, hein, que je vous montrerai. Alors, c'est pas dans la Provence ou dans le Dauphiné. C'est des journaux spécialisés. Et en même temps, on va les diffuser de façon orale. On va donner des conférences dans des congrès internationaux. Voilà les trois moyens de communication. Et puis, si on a un sujet qui est un peu appliqué, on peut déposer des brevets. Des brevets, c'est-à-dire que si quelqu'un veut utiliser notre découverte, il va devoir payer des royalties aux découvreurs. Dans ma vie, j'en ai déposé qu'un seul. Et personne ne l'a utilisé. Donc, ça ne m'a jamais rien rapporté.
Est-ce que tu as déjà eu des prix ?
Oui. Oui, j'ai eu un prix de l'Académie des sciences. En 2002, j'ai eu un prix aussi de l'université de San Paolo, au Brésil, de l'université de Berkeley, puis du Japon aussi, de l'université de Kyoto.
Quel sujet tu as trouvé le plus passionnant ?
Les sujets que j'ai pu mener ?
Oui.
Il y a un sujet qui me passionne particulièrement maintenant, c'est pour en faire des usines cellulaires. Ça, c'est un sujet qui est un sujet d'avenir et dont on reparlera dans les décennies qui vont venir.
Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont fait peur ou qui étaient risquées ?
Oui. Oui, il y en a eu quelques-unes. Il y en a une qui m'a marqué à vie. C'est quand j'étais en stage postdoctoral à l'université de Genève. Je devais utiliser du triméthyl aluminium. Alors, c'est un composé que l'on garde à l'abri de l'air, parce qu'à peine il voit l'air qui s'enflamme. Et je devais utiliser ça. Et il fallait que j'en prépare une solution, c'est-à-dire que j'en mette dans un solvant, du toluène. Ça ne va rien vous dire, ça. Mais il fallait que je le prélève à la seringue pour le transvaser dans un ballon. Et en le prélevant à la seringue, comme ça, j'avais très très peur de faire ça. Je tremblais. Et il y avait quelques gouttes qui tombaient sur la paillasse. Et à mesure que les gouttes tombaient sur la paillasse, ça s'enflammait. Et donc, je suis arrivé à mettre quand même mon aiguille dans le ballon où ça devait aller. Je l'ai mis. Et après, je suis allé voir mon professeur avec qui je travaillais. Je lui ai dit, je ne fais plus jamais ça. Et je n'ai plus jamais fait.
Combien de temps penses-tu rester à ce poste et qu'est-ce qui te motive ?
Alors, ce qui me motive, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai un certain âge, je suis émérite, donc je suis à la retraite, je suis émérite. Et j'adore tout ce qui concerne diffusion des savoirs, et notamment auprès des élèves, des enfants. Voilà, ça me motive beaucoup. Jusqu'à quand je vais le faire, j'en sais rien. J'ai encore un contrat de 5 ans. Je ne sais pas si je serai encore valide dans les 5 ans qui viennent. Mais si je peux, je continuerai, je peux continuer après, tant que je m'en sentirai capable. Et tant que je ne serai pas une charge pour mes collègues de laboratoire.
Pourquoi viens-tu nous voir à l'école de Vollone depuis 3 ans ?
Parce que je vous aime bien et que je prends beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Vous m'ouvrez des horizons particuliers et c'est vraiment un plaisir.
Reviendras-tu l'année prochaine nous apprendre les sciences ?
Bien volontiers.
Pourras-tu intervenir au collège l'année prochaine ?
Pourquoi pas, mais ça ne dépend pas de moi, ça va dépendre des enseignants, de vos enseignants, parce que ça part d'une volonté d'un enseignant. Si je suis venu, c'est grâce à Véronique. Donc s'il y a un enseignant de votre collège qui souhaite, oui, sans problème.
Quelle nouvelle évolution dans la chimie t'enthousiasme le plus ?
Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la partie biologie de synthèse. C'est utiliser des micro-organismes pour en faire des usines cellulaires, des usines chimiques. Remplacer la vieille usine de Saint-Auban que vous avez pas loin de chez vous par une grosse usine de fermentation pour faire des produits chimiques de façon safe, sans pollution, dans un monde rêvé. Ça, c'est un des grands axes de la chimie à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, dans le laboratoire, vous verrez, vous ferez la visite avec Laetitia, qui travaille dans ce domaine-là.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci de nous avoir invités dans ton laboratoire.
Merci pour tout ce que tu nous as fait découvrir cette année.
Merci pour ta patience et ta disponibilité.
Merci à vous d'avoir été si attentif à ce que je vous ai raconté. Si réceptif aussi, parce que si vous n'aviez pas été réceptif et attentif, je ne serais pas revenu souvent. Donc c'est pour tout ça que je suis revenu. Et puis donc, puisqu'on en est dans les remerciements, vous me remerciez pour visiter le labo, mais il faudra remercier toutes les étudiantes, Rebecca, Léa, Laetitia, Iris, qui je vais oublier, Noémie, voilà, qui vont vous faire visiter le laboratoire. On va se répartir en plusieurs groupes parce qu'on ne peut pas tous débarquer dans le laboratoire en même temps. Mais en tout cas, merci à vous d'être venus. Ça a été un plaisir. Et merci à Véronique aussi.
Pendant notre voyage à Marseille, nous avons fait une grande balade avec 200 mètres de dénivelé sur la montagne de la Sainte-Victoire. Et nous avons visité la reproduction de la grotte Cosquer à la Villa Méditerranée. C'est Aaron, Elisa, Inès et Nina qui vont vous raconter cette visite.
La grotte Cosquer.
Pourquoi cette grotte a-t-elle été reproduite à la Villa Méditerranée ?
C'est parce que la grotte originale va être bientôt noyée par la mer. Ici, on peut la visiter et la découvrir.
Combien de temps a duré le chantier ?
Ça a pris 2 ans.
Y a-t-il de l'eau dedans ?
Oui, presque à tous les endroits.
Comment se forme une grotte ?
C'est l'eau qui creuse la roche.
À quoi ça sert une grotte ?
Ça sert à abriter des animaux et des humains à la préhistoire.
Comment cette grotte a-t-elle été découverte ?
C'est Henri Cosquer qui faisait de la plongée sous-marine avec des amis qui l'a découverte en suivant un passage sous l'eau qui débouchait dans la grotte.
Qu'est-ce qu'on y voit ?
On y voit des peintures de divers animaux, des gravures et des mains sur les parois.
De quand datent ces gravures ?
Elles datent de la préhistoire.
De quelles couleurs sont-elles ?
Elles sont marron, rouge, noir, jaune, orange, beige.
Comment est l'intérieur de la grotte ?
Il y a des stalactites, des stalagmites, des roches, des puits noyés, des crabes calcifiés, des lustres de pierre.
Vos impressions ?
C'était très joli. C'était magnifique.
J'ai aimé.
Le plus haut type plus. Henri Cosquer est né en 1950 à Martigues. Aujourd'hui, il a 73 ans.
À présent, Noan, Maïlis et Clémentine vont vous présenter quelques documentaires scientifiques que nous a apporté Marie-Ange, bénévole à l'association Lire et Faire Lire.
Voici le livre que je vais vous présenter. Le titre, c'est Ma planète. L'auteur, Sally Zlewski. Les photos sont de Philippe Bourseiller. Il a été édité chez De la Martinière en septembre 2008. Il nous propose 19 activités pour comprendre la Terre et nous donne des informations sur notre planète. Comme par exemple, les volcans, d'immenses montagnes qui crachent du feu, qui ont en réalité beaucoup servi à la Terre. Comme par exemple, créer des îles ou des chaînes de montagnes. Dans le monde, il n'y a pas que les volcans qui sont impressionnants. Les océans recouvrent les 2/3 de notre planète, en plus d'être une grande source de vie. Mais les choses les plus extraordinaires ne sont pas toutes sur Terre. Le soleil. Il ne serait pas possible de vivre sur Terre sans le soleil qui est une étoile.
Le livre que j'ai choisi s'appelle « Menaçant, inquiétant, fascinant, ces animaux mal aimés » de Yann Rigaud. Son éditeur est Bélin et l'année d'édition, le 31 décembre 2014. Ça apprend des choses sur les animaux dangereux. Je l'ai choisi car j'aime lire des renseignements sur les animaux. Mais surtout, ce livre montre que ces animaux mal aimés ont eux aussi leur place sur Terre.
Le livre que je vais vous présenter s'appelle « La chimie ». La maison d'édition, c'est Mango Jeunesse. Les images ont été réalisées par Peter Allen et les textes sont de Charles Dingersheim. Je l'ai choisi car il y a 19 explications pour comprendre la chimie. Il y a même des expériences qu'on peut tous faire chez soi. Par exemple, pourquoi une bougie s'éteint quand on la couvre d'un bocal ?
Merci à l'équipe de Fréquence Mistral de nous avoir permis de réaliser cette émission. Et merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. Thank you.